I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nous sommes en compagnie de François Forget, planétologue, et on parle de mission Phoenix qui se posera sur la planète Mars et au pôle nord de la planète Mars. Une pelle mécanique sur Mars, François, c'est quand même très original. J'imagine que ça n'a pas été très simple à concevoir. Jusqu'à quelle profondeur va-t-elle creuser le sol martien ?
Alors, je vais dire qu'on a l'expérience d'une pelle mécanique sur Mars, parce qu'il y avait des pelles mécaniques sur les sondes Viking dans les années 70, qui ont pas mal fonctionné, elles ont creusé, des bonnes tranchées, etc. Alors celle-ci, on s'est dit qu'il fallait creuser profond, donc elle est assez grande, elle fait 2,35 m de long, et elle a pour objectif de creuser à peu près jusqu'à 50 cm de profondeur. Alors je dis 50 cm de profondeur, c'est en creusant dans le sable, dans les roches, dans du gravier, même dans de la roche, on peut gratter. Par contre, on s'est rendu compte, et pour l'anecdote, je dois dire qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite, que lorsqu'on atteint une couche de glace, une vraie couche de glace, ce qui est normalement l'objectif, eh bien là, la pelle devrait être à peu près incapable de gratter la glace ou de creuser dans la glace, parce que la glace à moins 10 degrés, c'est assez facile à creuser. La glace à moins 40 degrés, c'était à cette température-là qu'on avait fait les premiers tests, on arrivait à peu près à la gratter avec la pelle, mais la glace à moins 80, moins 100 degrés qu'on va trouver un petit peu en profondeur, là c'est dur comme du béton, vraiment dur comme du béton. Et donc ce que disent mes collègues américains, c'est, ils disent toujours, la pelle est capable de creuser jusqu'à 50 cm ou jusqu'à la glace, le premier qu'on trouvera, voilà, jusqu'à cette limite-là.
Bon, et l'objectif scientifique, c'est d'apprendre des choses sur l'eau qui est au pôle. Est-ce que c'est comme, finalement, pour reprendre la comparaison terrestre, hein, est-ce que la glace martienne est aussi une archive du climat martien ? Je doute qu'à 50 cm de profondeur, on apprenne beaucoup, beaucoup de choses.
Ah si, on va apprendre beaucoup. Alors, la glace martienne, qui au premier abord semble être vraiment l'archive du climat, c'est le gros glacier qui est autour du pôle, qui fait des milliers de mètres d'épaisseur, avec des milliers de strates dont je vous ai parlé, qui semble avoir enregistré les fluctuations du climat. Peut-être que cette glace-là, donc on est là dans une couche de glace qui fait, on ne sait pas trop quelle épaisseur, qui est sous quelques centimètres de sédiments. Peut-être que cette glace-là, et je pense personnellement que cette glace-là, pour moi, elle va aussi nous raconter beaucoup de choses sur le passé du climat. En effet, on ne sait pas trop comment elle a été mise en place. Il y a plusieurs théories. Par exemple, personnellement, avec quelques collègues ici à Paris, on pense que cette glace a été mise en place au gré des fluctuations du climat de Mars qui ont été déclenchées par les variations de l'obliquité, de l'inclinaison de Mars sur son orbite. Et il se trouve qu'on peut démontrer, nous on a des modèles de climat pour faire ça, ça marche bien, où on simule le cycle de l'eau, les nuages, les précipitations, la neige. On peut démontrer que quand l'obliquité de Mars varie sur son orbite, eh bien on peut avoir la glace qui va former des glaciers sous les tropiques et puis revenir au niveau des pôles, etc. Et parmi nos scénarios, on avait mis en évidence, on avait publié un scénario qui expliquait qu'on devait accumuler de la glace dans ces régions-là avec ce mécanisme-là. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on devrait voir de multiples strates, des couches qui ont été accumulées les unes après les autres à l'occasion de ces différents épisodes climatiques. Alors c'est ce que je disais il y a encore quelques mois, jusqu'à ce que des collègues fassent des modèles physiques de la stabilité de la glace, où ils ont montré que a priori notre glace, entre guillemets, celle qui aurait été déposée à l'occasion des excursions climatiques de Mars il y a quelques millions d'années, il n'y a pas très longtemps à l'échelle géologique, c'est récent pour nous, mais quelques millions d'années, cette glace, en fait, est probablement instable, et que dans un premier temps, ce que va voir Phoenix, c'est les restes de cette glace qui se sera partiellement sublimée, et j'ai peur qu'on ne puisse pas retrouver des indices. Mais fondamentalement, la vraie chose à retenir, je crois, c'est on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On sait qu'il y a de la glace. On sait qu'elle a été mise en place par tel ou tel mécanisme. Mais quand même, vraiment, il y a un suspense. Parce que pour l'instant, on l'a vu de loin avec un spectromètre, des spectromètres gamma ou des spectromètres neutrons, des choses extrêmement indirectes. Et là, ça va être absolument passionnant. Et il y a quand même de bonnes chances qu'on apprenne des choses sur le climat.
Alors, à bord de cette sonde, donc, il y a deux laboratoires de bord. On dit, il y a un premier qui est constitué, qui s'appelle TEGA d'ailleurs, qui est constitué de 8 mini-fours de la taille d'une cartouche de stylo. Hein. Et là, on va utiliser, on va prélever des échantillons, les diriger, les faire fondre et diriger leurs effluves vers un spectromètre de masse pour identifier leurs constituants. C'est une technologie nouvelle ou ça a déjà été là aussi utilisé par Viking en 1976 quand on a fait les premières analyses de sol pour savoir comment se comportait le sol quand on le nourrissait, qu'on le chauffait. C'est une expérience originale.
Oui, oui. Enfin, le spectromètre de masse lui-même ressemble un petit peu à celui de Viking. Il devrait être peut-être un petit peu meilleur. Il est pourtant beaucoup plus petit. Hein. Mais pour le coup, on va quand même pouvoir s'intéresser à une région totalement différente. Ça veut dire que, et puis on utilise quand même avec ce système de four, avec ce système de chauffage. Pourquoi on utilise des fours? D'une part, bien sûr, c'est pour transformer des roches, éventuellement de la glace, en gaz. C'est parce qu'elle est ionisée, c'est comme ça qu'on peut analyser la composition avec le spectromètre de masse. Mais on va aussi utiliser ces fours pour regarder, par exemple, je vais vous donner un exemple, si on prend de la glace, si on trouve de la glace, on ne la reconnaît pas, on la met dans le four, on chauffe, on va se rendre compte que, alors si on était sur Terre, je vais dire, on va se rendre compte qu'à 100 degrés, elle va se mettre à bouillir. Et on va avoir un changement de phase, et on va voir que pendant un moment, ça va rester coincé à 100 degrés, etc. Et on peut faire ça pour l'eau, mais on peut aussi faire ça pour beaucoup de roches, de molécules organiques, etc. Donc là, l'objectif, ça va être aussi d'apprendre des choses sur la composition avec les fours et ensuite avec le spectromètre de masse. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre de plus que Viking? La première différence, c'est qu'on ne va pas au même endroit. On ne va pas au même endroit, ce qui fait qu'on pense qu'on va trouver plus facilement de la glace et donc analyser des effluves de la glace, ça c'est intéressant. Et il y a certains théoriciens qui disent bien que c'est une zone qui a toujours été gelée depuis très longtemps, lorsqu'on va arriver au niveau de la glace, si on arrive à la gratter un peu, et peut-être qu'on a de bonnes chances de trouver des molécules organiques. Et d'ailleurs de ce point de vue-là, je pense que le spectromètre de masse est peut-être un petit peu mieux adapté pour certaines molécules organiques, qui reste quelque chose à découvrir sur Mars. Il se trouve que l'une des grandes découvertes de Viking, c'est qu'on ne trouvait pas de molécules organiques à la surface. Alors, on ne trouvait pas de molécules organiques qui seraient liées à la vie. Bon, ça, ok, s'il n'y a pas de vie à la surface, ce n'est pas une surprise. Mais on ne trouvait pas non plus de molécules organiques qu'on trouve sur la Lune. C'est-à-dire des molécules organiques qui sont transportées là, ne serait-ce que par des chutes de météorites, on les trouverait sur la Lune, on ne les trouve même pas sur Mars. Ça avait été une grande surprise. On pense que c'est parce que l'atmosphère stérilise, réagit chimiquement avec ces molécules et les détruit, on va dire. Mais bon, l'enquête reste à mener parce qu'on n'est pas trop sûr du spectromètre de masse de Viking, donc on va poursuivre cette enquête-là. Ça reste quand même un tout petit instrument par rapport à ce qui va être fait dans les années à venir. Mais néanmoins, l'enquête va être passionnante. Puis on va aussi examiner la nature de la surface, les roches, si c'est du sulfate, si c'est des carbonates. Et ça, on va beaucoup apprendre. Donc ça va être vraiment passionnant. Mais là encore, je dirais un petit peu comme tout à l'heure pour ce qui est des strates et de ce qu'on va creuser, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Il y a une vraie surprise, un vrai suspense.
Sur Viking, c'était pas très clair les résultats. On a discuté pendant 20 ans, oui, c'est pratiquement ça, deux décennies, des résultats enregistrés par les deux sondes Viking sur la recherche de ces molécules organiques. On a eu des signaux positifs, on a eu des signaux négatifs, et au bout du compte, on est resté dans l'expectative. On n'est pas capable de répondre si quelque chose, on va dire, mange, respire à la surface de Mars.
Alors là, il faut distinguer deux types d'expériences. Il y avait sur Viking, il y avait des expériences qui étaient vraiment dédiées à la détection de la vie. Et quand on dit détection de la vie, en fait, c'était la détection d'un métabolisme, quelque chose qui effectivement mange, respire, etc. Et c'était des expériences quand même vraiment difficiles. Certaines ont donné des résultats ambigus, à part quelques-uns des chercheurs. Malheureusement, un des chercheurs qui était responsable d'une des manips, il y a eu un consensus pour se dire qu'on n'avait pas trouvé grand-chose, en tout cas pas suffisamment pour vraiment démontrer qu'il y avait de la vie. Et puis surtout, ce qui avait, alors là c'est un point important, ce qui avait mis le coup de sifflet final, c'était un autre type d'expérience, c'était ces spectromètres de masse, donc des instruments capables de détecter la présence de molécules, de certaines molécules, et en particulier les molécules organiques. Et ce que le spectromètre de masse de Viking avait montré, c'est justement l'absence de molécules organiques. Donc là, on ne parle plus de détection de la vie, on parle juste de détection de molécules organiques, des choses tout simples, des chaînes carbonées, bon, je n'ai pas entendu les détails, mais qu'on devrait trouver, encore une fois, qu'on devrait trouver presque quasiment sur la Lune.
Des éléments de base, quoi.
Des éléments de base très simples.
Biologique.
Non, pas d'activité biologique.
De composants.
Ce qu'on appelle organique, molécules organiques, ce ne sont pas des molécules biochimiques, biologiques, ce sont des molécules qui sont constituées avec des chaînes carbonées, avec du carbone, de l'hydrogène, un peu d'azote éventuellement, et qui sont le méthane, enfin je n'irai pas jusque là, mais tout ce qui est carboné, les hydrocarbures, ce sont des molécules organiques qui ne sont pas nécessairement biologiques. Donc là, c'était juste des molécules organiques qu'on trouve dans les météorites, qu'on trouve dans l'espace interstellaire. Ça n'a rien à voir avec la vie. Par contre, ce sont des briques qui vont être nécessaires peut-être pour développer la vie. Ce qu'avait montré Viking, c'est qu'à la surprise générale, il n'y avait même pas de molécules organiques, même pas celles qui viennent de l'espace interplanétaire et des météorites. Alors, depuis, la chose un peu nouvelle, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je crois qu'on s'est rendu compte que les barres d'erreur, c'est-à-dire on s'est dit, il n'y a pas de molécules organiques avec un plafond à tant de parties par million, on va dire. On s'est rendu compte qu'on avait un peu surestimé la précision de ce spectromètre de masse et que peut-être qu'il y en avait plus qu'on ne croyait. On n'a pas détecté, mais ce n'est pas parce qu'on n'avait pas détecté à ce niveau-là qu'il n'y en avait pas du tout autant qu'on le pensait. Donc ça, c'est le petit élément nouveau. Alors, Phoenix va essayer de faire avancer cette enquête-là, mais elle va faire avancer cette enquête-là dans un endroit très spécifique, les régions polaires martiennes. Et puis, je dois rajouter que dans 2 ans, éventuellement 4 ans s'il y a un retard, la sonde NASA suivante qui s'appelle Mars Science Laboratory va partir cette fois-ci équipée non pas d'un micro-laboratoire, mais d'un ce que j'appellerais un mini-laboratoire, des dizaines de kilos d'instruments, en partie français d'ailleurs, qui vont faire cette analyse-là dans la région tropicale, dans les terrains anciens, avec beaucoup plus de précision. Mais ce que va faire Phoenix, c'est quand même une enquête dédiée à la glace aux régions polaires.
Alors, second laboratoire de Phoenix, hein, même si finalement c'est une petite sonde, hein, un laboratoire qui s'appelle MECA, dont on dit que c'est un véritable kit de jardinier qui comprend 4 éprouvettes où seront introduits des échantillons de sol en provenance de différents niveaux de tranchées. Chacun d'eux sera dissous dans de l'eau et des capteurs mesureront l'acidité de la solution, sa teneur en sel, en métaux, en gaz dissous. Là aussi, on a un mini laboratoire ou micro laboratoire. Quel est l'objectif scientifique cette savoir finalement c'est un milieu propice à conserver une activité biologique ou c'est simplement de la décrire.
C'est, moi je dirais au premier ordre c'est de la décrire, c'est-à-dire que là encore on ne sait pas ce qu'on va trouver. Le fait de dissoudre, finalement c'est vraiment ça, c'est un petit laboratoire portable, on prend du sable, on les met dans l'eau, on regarde ce qui se passe, on mesure. C'est quelque chose de très standard dans n'importe quel laboratoire sur Terre. Dès qu'on analyse quelque chose, on le plonge dans l'eau, on mesure le pH, donc l'acidité, etc. On pourra détecter les ions, on pourra avoir pas mal de choses. Ça c'est quelque chose qu'on va faire. Derrière, je dois ajouter, il y a une série de microscopes qui vont regarder ces échantillons. Il y a même un microscope à force atomique, donc qui va regarder avec une précision de quelques nanomètres la texture des petits grains qu'on va récupérer, etc. Alors à quoi ça sert ça? Le but c'est qu'en fait en regardant la texture des grains, par exemple s'ils sont un petit peu arrondis, on peut se dire ils ont été roulés, donc ils ont été déplacés, transportés. S'il y a des argiles, on va les reconnaître et ce sera très intéressant parce que les argiles sont souvent créées en présence d'eau, etc. Mais je dirais qu'en général, on a vraiment mis là un nouveau type de laboratoire qui va être très intéressant sur Mars et on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir. Enfin, je dis ça, je vais peut-être un peu vite parce que j'ai déjà discuté plein de fois avec mes collègues qui travaillent sur cette manip-là, qui ont tout un plan de travail prévu, etc. Mais je crois qu'il reconnaîtra avec moi que l'idée, c'est d'explorer, là, de découvrir.
Ce qu'on veut faire, c'est décrire le milieu. C'est cet endroit particulier, qu'est-ce qu'il est? On creuse pour, finalement, comprendre comment il se comporte. Résistance, vous parlez de conductivité électrique, thermique, etc. Enfin, on veut vraiment le décrire. C'est pas un laboratoire de recherche de la vie, comme on pourrait le penser. C'est vraiment de description du milieu, et ensuite, on se posera des questions.
Oui, c'est de description du milieu, mais avec une idée derrière la tête, c'est qu'on est dans un endroit, encore une fois, on est dans un endroit particulier sur Mars, près des régions polaires, dans un endroit où il y a de la glace juste sous le sous-sol, un endroit qui peut-être, au gré des variations du climat, cette glace a peut-être C'est pas démontré, les modèles sont pas d'accord, a peut-être pu fondre dans le passé, donc laisser des traces de cela. C'est un endroit où on va peut-être pouvoir gratter un peu de glace et l'analyser, la glace sur Mars, l'analyser. Donc c'est caractériser un, c'est pas simplement une mesure, c'est pas une expérience de savant cosinus pour caractériser la minéralogie de Mars, c'est une enquête sur un milieu où il y a eu de l'eau, où il y a eu de la glace, peut-être de l'eau liquide, où il y a une enquête à faire, et donc on va la faire avec ça. Je dois ajouter, en complément hein, de cet instrument-là, toujours c'est la même équipe qui l'a fait, vous avez au bout de l'appel, d'ailleurs au bout de l'appel vous avez aussi une caméra qui va regarder à quoi ressemblent les tranchées qu'on creuse, et puis vous avez aussi une série de capteurs un peu liés avec des aiguilles qu'on rentre dans le sol et qui permettent de mesurer s'il y a de la glace en regardant la résistance calorifique, s'il y a un petit peu d'eau liquide ou des films d'eau liquide qui se créent, etc. Et tout ça, c'est une enquête globale. Vous voyez, si on met en commun toutes ces manips, c'est pour caractériser un environnement, mais avec toujours en tête l'idée que c'est un environnement qui a connu la présence de glace et qui connaît la présence de glace et peut-être d'eau liquide.
Et qui pourrait vouloir dire peut-être une aptitude à conserver des formes de micro-organismes dormants, voire même peut-être héberger de quelque chose qui soit, je repense, excusez-moi, mais à l'image de la spore, quoi. C'est-à-dire, on dit que finalement, conservé au frigo, on a peut-être des chances de trouver quelque chose qui soit, oui, dormant, hibernant.
Oui, c'est,
je vous pousse
c'est
vers
le dada, c'est dada d'une partie des personnes de l'équipe.
Je vous pousse vers la SF, parce que c'est là-dessus que va aussi communiquer la NASA, en disant, elle a déjà commencé à le faire, en disant que effectivement c'était possiblement un endroit où on pouvait trouver des formes de vie fossile, voire même endormie, en hibernation. Où est la science, où est la fiction, aujourd'hui en toute honnêteté?
Alors, en toute honnêteté, il y a deux aspects dans cette question. La première, c'est savoir si cet environnement a pu connaître, dans un passé finalement pas si lointain, de l'eau liquide. Et qui dit eau liquide, bien sûr, dit, avec notre expérience terrestre, dit la possibilité d'une vie qui se développe. Les choses sont pas très claires. C'est pas sûr. Moi, je suis pas certain qu'il y ait de l'eau liquide. Je pense que la glace se sublime avant qu'elle puisse passer liquide. Mais la porte n'est pas fermée et donc c'est bien d'aller voir. C'est pas les modèles qui vont répondre à tout, hein. C'est donc c'est pas les calculs sur ordinateur qui simulent la température, etc., qui vont répondre à ça. Et en allant voir, on va pouvoir faire cette enquête là. Et effectivement, s'il y a eu de l'eau liquide, là quand même, faut reconnaître, l'enquête devient vraiment passionnante pour ce qui est d'une vie récente. L'autre aspect, c'est toujours cette idée que sur Mars, il y a quelques milliards d'années, les conditions étaient très différentes. On est presque sûr qu'il y a eu des périodes où il y avait beaucoup d'eau liquide, hein, vous savez, c'est là où on voit ces traces de rivières, de lacs, etc. Et on pense que la vie à la même époque s'est développée sur Terre, donc on pense toujours, et ça c'est, pour moi c'est pas la science-fiction, c'est assez solide, que la vie aurait pu se développer sur Mars. Derrière ça, il y a une réflexion qui est de dire, si on veut trouver cette vie dormante, les restes de cette vie, où faut-il chercher ? Alors bien sûr, il y a une première idée qui est de dire il faut aller dans les terrains anciens où il y a des strates, le fond des lacs, les terrains sédimentaires. Ça va être l'objectif des missions à venir de la NASA et de l'ESA, Mars Science Laboratory, ExoMars, dans quelques années, qui est une mission européenne, etc. Une autre attitude qui était poussée un peu par un de mes collègues que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chris McKay, qui est de dire il faut aller dans les endroits où elle a pu se conserver, parce qu'une vie aussi longue, aussi ancienne, même des fossiles, même des restes de molécules organiques, des centaines de millions d'années, des milliards d'années, ça détruit tout. Ne serait-ce que la radioactivité de n'importe quel caillou suffit peu à peu à détruire les restes. Par contre, plus on est froid, mieux c'est. Et dans cet esprit-là, donc vous voyez, c'est complémentaire à l'idée d'aller à un endroit où il y a actuellement de la glace et de l'eau et éventuellement le liquide. Non, là, c'est l'idée d'aller dans un endroit qui a été un frigo permanent et qui a toujours été relativement froid depuis des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années. Alors, il y a un bémol à cela, c'est que cette théorie-là, elle s'applique bien quand on va vraiment très profond. Mais quand on va pas très profond, comme le fait, comme va le faire donc 50 cm hein, au maximum, comme va la profondeur à laquelle va creuser Phoenix, on va pas vraiment aller dans ces zones qui sont restées très froides depuis des centaines de millions d'années. Par contre, je dirais pour conclure et pour dédouaner un peu la NASA, qui bien sûr va communiquer là-dessus, mais il faut dire que ça intéresse tout le monde, ça passionne tout le monde, même si c'est un pourcentage de chance qu'il y ait une possibilité qu'il y ait eu peut-être un environnement favorable à la vie, on sait quand même pas
tout
sur cette région-là. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et il faut laisser... je pense qu'on va avoir des surprises, et peut-être parmi ces surprises, la possibilité de découvrir les restes ou même la présence actuelle d'un environnement qui a pu être ou qui est favorable à la vie. Et donc la NASA n'a pas tort de communiquer là-dessus. J'ai peur qu'au bout de quelques semaines, elle soit obligée de dire « Oh ben non, finalement, c'était juste de la glace qui est récente, etc. » Mais malgré tout, voilà, il faut aller voir.
Phoenix, et aussi pour conclure, dernière mission fixe sur le sol de Mars, c'est-à-dire qu'elle n'est pas équipée de roues pour pouvoir se déplacer, elle va se poser et restera là où elle est, hein, là des pieds. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que finalement c'est pas aussi la dernière mission d'une époque où le statique était roi, même si Spirit et Opportunity ont démontré effectivement l'avantage de pouvoir se déplacer sur Mars, et une mission qui sera un petit peu dépendante de ces conditions d'atterrissage, on est un petit peu limité là aussi.
Oui, alors évidemment, ça aurait été mieux, on va dire, en toute rigueur, que Phoenix ait des roues et puis se déplacer, aller explorer. Mais c'est un compromis. Le compromis, ça a été de faire... Phoenix, c'est pas une petite mission, hein, en termes de masse. Ce qui va atterrir sur Mars, c'est comparable, même un peu plus gros, que les fameux rovers Spirit et Opportunity. Pourquoi ? Parce qu'il y a un compromis qui a été fait, c'est qu'on remplace une certaine mobilité avec des roues, avec la possibilité de creuser, d'avoir cette pelle de 2,35 m, d'avoir tous ces laboratoires. Et l'idée derrière ça, c'était qu'on pense que cet environnement, ces fameuses zones où on pense qu'il y a de la glace ou quelques dizaines ou quelques centimètres de sable, eh bien on pense que c'est assez homogène. On s'est dit, il n'y a pas de raison d'aller là. Si on met, c'est vrai qu'il y a toutes les chances pour que si on avait mis des roues à Phoenix, elle aurait pu très bien rouler jusqu'à un des gros cailloux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais à part cela, toute la zone, ça doit ressembler quand même à une espèce de toundra sans buisson. Donc c'est quelque chose d'assez homogène. Donc peut-être que ce n'était pas une grande nécessité de mettre des roues. Et c'est un compromis qui a été fait. C'est vrai qu'à l'avenir, surtout lorsqu'on va envoyer des rovers pour vraiment faire des enquêtes dans des couches sédimentaires, un peu comme l'ont fait Opportunity et Spirit, oui, il faudra à nouveau être mobile.
Rien ne remplace le retour d'échantillons.
C'est un débat qui a lieu actuellement, qui est assez intense. Non, rien ne remplace le retour d'échantillons en termes de est-ce qu'on peut faire les analyses qu'on l'on ferait. Non, la réponse. Pour ce qui est de l'analyse en laboratoire, rien ne remplace le retour d'échantillons, parce que ce qu'on peut faire avec des quelques grammes d'échantillons qu'on ramènerait de Mars dans des laboratoires terrestres, qui occupent des maisons entières et qui sont capables de faire des mesures avec une précision absolument hallucinante, et donc de pousser l'enquête scientifique à des niveaux extraordinaires, eh bien ça c'est irremplaçable. On ne peut pas du tout encore le faire sur Mars. Donc il y a une complémentarité. Sur Mars, sur place, on va aller dans des endroits, on va caractériser plein de choses, on va choisir des échantillons, car effectivement, là c'était une question rapide, mais il y a dans les cartons l'idée de faire un retour d'échantillons. Le seul souci avec ce retour d'échantillons, c'est que c'est assez compliqué, ça coûte cher, mais je crois que tout le monde est d'accord pour le faire. La question c'est quand et comment.
Merci François Forget. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment, non pas à la prochaine mission martienne, mais au prochain épisode.